Vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver en ce samedi pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cotier. Alors, en ce samedi de début de printemps, on a eu envie, comme tout bourgeonne, de savoir comment on démarre une nouvelle carrière, comment on est recruté pour un nouveau poste. Et évidemment, ça concerne tout le monde, ceux qui ont déjà été recrutés, ceux qui vont être recrutés. Pour vous, les étudiants, qui êtes très nombreux à nous écouter, nous avons la chance d'avoir un immense spécialiste français de la question du recrutement, Frédéric Cousin. Bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Frédéric nous a offert, a commis ce magnifique livre aux éditions Afranel, Réussir son recrutement, le sous-titre Méthode d'identification, de sélection et d'évaluation et d'intégration pour son entreprise Refea. Alors c'est une émission interactive, hein. Vous connaissez le numéro de la radio, vous savez qu'on est là pour vous coacher pendant 2 heures. Vous n'hésitez pas à nous appeler, Frédéric va répondre à toutes ces questions et moi en tant que coach, j'essaierai aussi d'apporter mes éclairages. La réalisation est faite comme toujours par le grand Julien Delanoë. Frédéric Cousin, pour les auditeurs de Vivons Coacher, pouvez-vous vous présenter, dites qui vous êtes.
Tout simplement. Un recruteur passionné par le recrutement, passionné par organiser des rencontres à succès entre des candidats et futurs collaborateurs et les entreprises qui ont besoin de collaborateurs pour réussir la mission de bien fonctionner.
Et ça fait combien d'années que vous faites ça, Frédéric Cousin?
Ça fait 20 ans maintenant que je fais
20
ça.
20 ans, donc vous n'êtes pas un junior, hein. Et donc, première question, parce que évidemment, on va, chers amis auditeurs, beaucoup parler du livre Réussir son recrutement, qui est vraiment formidable, vraiment à découvrir. Frédéric, est-ce qu'il y a eu une évolution ces 20 dernières années par rapport au profil de gens ou différents, manières de recruter? Est-ce que ça a bougé en 20 ans?
Oui, parce que le marché de l'emploi a bougé.
Oui, lui-même
est bougé dans un sens et dans un autre depuis 20 ans. Aujourd'hui, la grande nouveauté, et ça s'est accéléré ces dernières années, c'est le digital. L'arrivée du digital et maintenant de l'intelligence artificielle font que l'approche du recrutement a changé.
Qu'est-ce que ça amène comme changement? L'IA et Internet, le digital. Les trois principaux points, on pourrait dire.
Ça facilite la mise en relation entre les candidats et les offres d'emploi.
Oui, ça, c'est vrai.
Avant, imaginez-vous, vous rédigez à la main la lettre de motivation, vous imprimiez votre CV, vous
l'envoyez. On allait à la NPE chercher les trucs papier.
Vous regardiez les petites annonces dans les journaux.
Les pages roses.
Les actes de du
Figaro.
Les pages Chaumon.
Les pages Chaumon. Saumon, précisément.
Et du coup, voilà. Et donc, ça mettait, pour postuler à des centaines d'emplois, il fallait des heures et des heures, et la patience et des crampes à main. Aujourd'hui, un clic, et ça y est, vous avez plusieurs entreprises qui reçoivent votre CV. Et de l'autre côté en recruteur, il y a des outils qui permettent de trier automatiquement, de sélectionner automatiquement les profils qui correspondent le mieux à ce qu'attend l'entreprise.
Alors, au début du livre, j'adore parce que vous faites une typologie des recruteurs. Et vous dites très précisément, il y a même un test, hein, quel type de recruteur êtes-vous? Alors, différent pour les auditeurs de Pour vivre heureux, ils vont coacher, quels sont les différents types de recruteurs, Frédéric Cousin?
Ouais, je dirais qu'il y en a deux, il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas.
Tout simplement. C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur des inconnus.
Exactement ça.
Il y a le bon chasseur, il tire, il voit un chasseur. Non, mais pourquoi il y a le bon et le mauvais? Bien sûr, mais il y a des profils.
Parce que le recrutement, quand on pose la question, moi j'ai donné des cours en école de commerce
sur
le recrutement. Et la question que je posais à la fin de mon enseignement, à mes étudiants, c'est: maintenant que vous savez presque tout sur le recrutement, est-ce que vous pensez que c'est plus facile ou moins facile qu'à l'origine? Si 100% m'ont dit, c'est plus compliqué. Parce que finalement, on a l'impression que le recrutement, c'est juste asseyez-vous, montrez-moi votre CV et puis présentez-vous. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut savoir qui on a en face de soi. Il faut aller chercher qui est la personne. Donc, il faut la mettre à l'aise. Parce que si elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas elle-même. Donc, vous savez pas qui elle est. Donc, l'idée, c'est pas de collecter de l'information. Là, ce qui est compliqué, c'est de collecter la bonne information.
Oui, et puis, c'est la fameuse phrase de JFK, the right man in the right place. C'est la bonne personne au bon endroit, n'est-ce pas, Frédéric Cousin? C'est-à-dire qu'évidemment, vous devez être capable d'auditer, de profiler le client, c'est-à-dire le milieu, l'entreprise, qu'il cherche vraiment, dans quel team, et après, trouver la bonne personne, c'est ça, de White Man, de White
Tout
Man.
À fait. Alors, comme je disais, autant il peut y avoir des mauvais recruteurs et il y a des bons recruteurs, autant il n'y a pas de mauvais candidats. Il n'y a que des bons candidats, mais.
Des bons candidats.
Que des bons candidats, mais qui ne sont pas forcément à la bonne place.
Oui, c'est ça.
Parce que l'entreprise leur correspond pas, parce que le métier leur correspond pas, parce que le cycle de vie de l'entreprise leur correspond pas, parce que l'environnement de travail leur correspond pas, parce que l'humain leur correspond pas. L'humain est très important dans le choix final, que ce soit du côté candidat que du côté employeur. On parle de compétences, certes, il faut savoir faire un métier. Mais il est plus facile d'apprendre un métier que d'apprendre à bien s'entendre avec quelqu'un d'autre.
Quelles sont à vos yeux, Frédéric Cousin, les trois principales qualités d'un bon recruteur?
La curiosité. Pourquoi? Parce que il faut s'intéresser sincèrement au candidat. Et pour s'intéresser sincèrement à son candidat, il faut être curieux. Curieux pour poser les bonnes questions. Ensuite, il faut être empathique. Pourquoi? Parce que il faut comprendre les réponses dans son univers à lui. Une réponse, chaque candidat qui va répondre à la même question, il faut l'intégrer dans son environnement et dans son métier. Et enfin, analytique, parce qu'il faut analyser les réponses et faire en sorte que de bien comprendre que la personne qui est en face de nous et voir si elle peut bien correspondre à ce que recherche notre
client.
Et
je trouve, moi, chers amis auditeurs, qui fait, vous le savez, depuis 30 ans, le métier de formateur coach, que votre métier, votre activité, Frédéric, est très complémentaire de la mienne. Mm-hmm. Parce que, et vous et moi, et d'ailleurs, notre réalisateur a fait certains stages de mes méthodes, il connaît, on a le goût des autres, comme dirait le titre du film. On peut pas faire nos métiers qui sont centrés quand même sur la patte humaine si on n'aime pas l'humain, si on n'a pas envie de le faire grow up, comment dire, hein, et glow up, hein, et qu'on n'a pas envie de rendre heureux, en fait. L'idée, elle est là, à la fois la personne qu'on embauche et la personne qui va la prendre. On est d'accord avec ça. C'est un peu comme quand les gens veulent adopter, une bonne adoption. Après, évidemment, chers amis auditeurs, Frédéric Cousin, dans son livre « Réussir son recrutement », a créé une méthode bien singulière et bien propre à votre entreprise. Vous allez l'expliquer par le menu. On passe une page musicale. Restez avec nous, c'est passionnant. Vous êtes très nombreux à appeler. On va évidemment... Tout ce que vous avez voulu savoir sur le recrutement sans jamais avoir osé le dire, c'est pas sur le sexe, comme dirait Woody Allen. Frédéric Cousin va vous le dire, à tout de suite.
Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassé et du fait vous êtes remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il pleure sur lui, se prend pour un travailleur émigré. Il se sent dépassé, et du fait il est remercié.
Le grand Eddie Mitchell qui nous dit il ne rentre pas ce soir. Oui, le fléau du chômage, le fléau d'être renvoyé, de ne plus faire partie de l'entreprise. Et effectivement, à ce moment-là, on cherche à être recruté. D'ailleurs, toutes les études. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans Pour vivre heureux, vivons coaché. Et toujours avec mon invité central, Frédéric Cousin. Nous traitons d'un thème qui passionne tout le monde parce qu'un jour, tout le monde à être recruté, n'est-ce pas, Frédéric Cousin?
Tout à fait.
Et tout le monde peut se retrouver aussi un jour aux prises avec le chômage, comme dans la chanson. Et c'est vrai que les études prouvent que l'estime de soi tend à baisser au fil des mois et dès très vite, hein, d'après l'OIT. Donc vous avez parfois affaire à des gens qui sont fragilisés quand ils viennent vous voir à votre cabinet de recrutement, parce que ça fait des mois, parfois certains des années, qui sont en recherche, n'est-ce pas? Comment vous faites? Il y a une dimension, ce que je veux dire par là, une dimension psy dans votre métier, Frédéric Cousin.
Il y a une dimension très très humaine, effectivement. On s'adapte à chaque candidat qu'on reçoit. On essaye d'être utile quoi qu'il arrive. Alors si on n'a pas forcément le poste pour lui, on essaie de lui donner des conseils, pour lui redonner confiance, pour lui donner les bonnes pratiques. Parce que quand on est candidat, bah, on ne sait pas trop ce que les recruteurs attendent. Donc on essaie de partager notre savoir-faire, notre regard, notre connaissance de l'attente du recruteur pour que le candidat se prépare à être un bon candidat pour convaincre d'être un bon collaborateur par la suite.
Oui, alors est-ce qu'il vous arrive parfois même, c'est pour ça que j'employais la dimension psy, de voir des gens... le socius est bon, le cursus honorum est bon, mais volins non lins, peut-être même sans qu'ils le sachent vraiment, sont des gens qui ont été fragilisés par leur période de chômage, qui sont pas très bien.
Alors, on n'est pas psy, mais on est la première étape du psy. C'est-à-dire que, comme on connaît très bien le marché du travail, et qu'on connaît très bien les attentes des recruteurs, notre rôle, c'est vraiment d'écouter, encore une fois, écouter les candidats, les comprendre, et puis leur donner les conseils qui vont bien, pour, encore une fois, leur booster. Et on y arrive. On y arrive. Pour le candidat, en tout cas, qui a envie d'être à l'écoute et qui a envie de rebondir, il repart de notre cabinet avec le sourire et la confiance en lui.
Et pour ça, vous devez être presque un motivational speaker. C'est-à-dire que dans votre manière de faire l'échange, les entretiens, il y a un côté motivateur.
On est là pour partager notre enthousiasme. Vous savez, notre baseline, c'est « Seuls les passionnés recrutent les meilleurs ».
C'est beau.
Ça veut dire que si on n'aime pas l'humain, on peut pas faire des métiers d'humain.
Quand on parle de passion, j'aime cette idée. Rien de grand sur Terre ne s'est fait sans passion, comme disait Victor Hugo. Donc vous êtes passionné.
C'est ça.
Et vous essayez de montrer combien c'est important cet enthousiasme-là pour le recruter.
Tout à fait. Quand on est recruteur, quand on a une entreprise et qu'on cherche un collaborateur, la première chose qu'on a envie de voir sur le visage de son interlocuteur, c'est un sourire.
Bien sûr.
Et le sourire, c'est l'antichambre de l'enthousiasme.
Bien sûr, bien sûr. Le sourire, de toute façon, c'est sourire à la vie et la vie te sourit, chers amis auditeurs. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'état d'esprit, le mindset, ne l'oubliez jamais. Je le dis en tant que coach et en tant que formateur, c'est vous qui le créez. Finalement, par rapport à ce que vous pensez, ce que vous dites, c'est vous qui allez dû mettre du soleil ou des nuages noirs dans votre vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Cousin? C'est complètement juste,
c'est
ça.
C'est ça.
Il faut qu'ils le comprennent, les gens.
Il faut être positif dans sa tête.
Exactement.
Il faut se faire confiance. Et y aller.
Et est-ce que, alors, évidemment, vous allez me dire, en 20 ans de carrière, vous avez eu d'immenses succès, je suppose, et c'est évidemment la satisfaction client qui compte, parce qu'un client satisfait va vous en amener, d'ailleurs, il va vous reprendre des gens.
Déjà.
Et puis surtout, un client satisfait, c'est 10, 50, 20, 30 autres clients derrière, par le bouche à oreille, on est bien d'accord. Refea, alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous parlez de votre méthode. Vous pouvez donner le nom de votre méthode singulière aux auditeurs de Pierrot Vivre Heureux, ils vont coacher?
Bien sûr. Donc, la méthode s'appelle CMPS pour compétences, motivation, personnalité et soft skills.
Alors, compétences. Commençons par compétences.
Ben, les compétences, l'idée, c'est que si demain je recherche un commercial, il faut qu'il sache vendre. Et pour ça, on a une méthode qu'on appelle la méthode STAR. Pour situation, tâche, action et résultat, qui va nous permettre d'identifier le niveau de savoir-faire du candidat qu'on a en face de nous. Et ça, c'est très important parce que c'est une méthode qui repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est de poser des questions au passé, parce qu'il ne s'agit pas de poser des questions théoriques, mais des questions vraiment vécues, avec qui s'intéressent uniquement aux faits, rien qu'aux faits, et surtout de demander un exemple pour illustrer le propos. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on demande, si je veux être très très simple, c'est un témoignage. Comment vous avez fait pour vendre cet article à votre dernier client? C'est ça.
D'accord.
La méthode.
J'ai voulu savoir. Et puis après, je disais souvent off que, comme dit le proverbe des polytechniciens, c'est au sommet du mur qu'on voit le maçon. Donc effectivement, parfois les gens, ça m'est arrivé moi aussi en tant que chef d'entreprise. Hein, je faisais les recrutements en interne de mon avant-dernier centre de formation, et parfois on se fait complètement avoir. Mais personne, c'est comme le risque zéro qui n'existe pas. Même en recrutement,
pas.
Le risque zéro n'existe pas. Non. Je veux dire, c'est une vérité. On est très compétent et vous l'êtes. Vous êtes parmi les meilleurs, mais tout le monde peut se faire avoir par un grand bluffeur.
Tout à fait.
Moi, je vous raconte une anecdote. On est à fond dans le cœur de votre situation. Frédéric Cousin, je recrutais un formateur sur AutoCAD. Le monsieur est venu avec un CV long comme le bras, ingénieur, ponts et chaussées, architecte des PLG, montrant qu'il savait utiliser je ne sais combien de logiciels. Bon, a priori, c'est la bonne personne pour former des débutants sur AutoCAD. Hein, chers amis auditeurs qui ne connaîtraient pas, AutoCAD étant un logiciel qu'utilisent comme Archicad et tout, et Revit, vous le savez, vous, Frédéric, les gens de l'architecture. Il arrive pour le premier jour de stage, et à la pause de la première demi-journée, certains de mes stagiaires viennent me voir dans mon bureau de DG et me disent « Monsieur Médici, est-ce normal que l'on lise la notice d'AutoCAD avec votre formateur ?» Bon, une seconde après, le formateur était dans mon bureau. Je me rappelle encore de son nom. Il s'appelle Doulcier. Et j'ai dit « Monsieur Doulcier », parce que c'est rare de faire un truc comme ça quand même. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous lisez la notice d'AutoCAD avec mes stagiaires ?» Il dit « Ah, oh, mais Monsieur Médici, c'est difficile AutoCAD. » Oh, vous imaginez! Mais comment peut-on? Mais faut une pathologie mentale. C'est comme si moi, je venais animer une émission de radio, je suis incapable d'aligner un mot. C'est comme si Julien arrive et dit oui, je peux réaliser une émission de radio et c'est pas ce qu'est un bouton devant. Il y a des gens, mais ils sont tellement fous, ils voient pas la honte qu'ils ont dû se taper. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Ça vous est arrivé un cas extrême comme ça on peut dire de mythomanie presque. C'est pas loin. D'affabulateur.
Oui, alors justement, pour ne pas se tromper, justement, la méthode STAR permet d'éviter se faire avoir et de savoir
alors,
quelqu'un.
Quels sont les filets?
En clair, quand je pose la question à quelqu'un, comme vous avez fait telle action pour que vous avez fait votre métier, si la personne ne sait pas me répondre ou ne me répond pas précisément, malheureusement, je considère qu'elle ne connaît pas son métier. Donc du coup, je peux pas aller plus loin, je peux pas le présenter à mon client. Donc c'est un premier filtre efficace sur les compétences. Donc si j'ai un conseil à donner sur comment exprimer ses compétences à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui cherchent du travail ou qui voudraient changer de travail, donnez des exemples de ce que vous faites, soyez précis sur vos tâches, plus
précis
vous serez précis
sur les tâches, ouais.
Sur la manière dont vous faites votre métier, plus vous serez convaincant.
C'est ça. Bon, on est sur convaincant, on va voir d'autres après de la méthode STAR. On passe encore une page musicale et on va continuer à aller vers connaître mieux ce métier passionnant qu'est le métier de recruteur. Restez avec nous, c'est passionnant.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées. Plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit. De vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier. Avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes collets noirs. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Des navires de guerre battus par les vagues, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je ne sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi, d'après les experts. Je me tais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui devient fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sais plus à rien moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et maintenant, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et maintenant, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or.
Le grand Lavillier qui nous parle de travailler encore, hommage à son papa, de tous ces gens qui sont d'un autre temps et d'une autre époque, ont travaillé dans les forges, dans les mines, ont commencé à 13 ans. On a un premier Radio Coaché.
Christophe Médici, Radio Coaché.
Bonjour Nati.
Bonjour Christophe.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamic Radio dans Pour Vivre Heureux, Vivons Coaché. Vous savez que notre invité central est Frédéric Cousin, n'est-ce pas, hein?
Oui.
Bon, qui parle de son livre Réussir son recrutement. Qu'aimeriez-vous lui poser comme question, Nati? On vous écoute.
Bah, écoutez, moi, je suis jeune candidat, fraîchement sorti d'études.
Ouais.
Et, je vous avoue qu'aujourd'hui, les questions qui m'intéressent, ce serait, dans un premier temps, de savoir si, je n'ai pas de retour de mes candidatures. Est-ce qu'il faudrait que je relance, du coup, les entreprises?
Ah, c'est une très bonne question. Frédéric Cousin, que faut-il faire dans une telle situation?
Bonjour, Nati. Merci pour votre question. La première chose à faire, effectivement, c'est avant de partir d'entretien, quand vous êtes en entretien de recrutement, c'est de dire, monsieur, quelle est la prochaine étape?
Ouais.
Et
éclairer le
temps.
Éclairer le
jeu. Voilà. Pour savoir un petit peu à quelle échéance vous pensez avoir un retour. Si, à la date de l'échéance, vous n'avez pas de retour, il est de bon ton d'envoyer un mail pour dire bonjour, je vous réaffirme mon intérêt pour le poste.
Sans faire son lourd.
Réaffirme juste son intérêt pour la mission, c'est tout. Mais au moins, on montre qu'on est là, qu'on est toujours attentif et qu'on est toujours à l'écoute et en attente d'un mail. Et à ce moment-là, je pense que vous aurez une réponse, Nati, de la part du recruteur.
Alors, c'est vrai, Nati soulève quand même un sujet qui est passionnant, c'est le degré de correction, et vous voyez ce que je veux dire, de certains recruteurs. Faut pas oublier aussi que certains recrutés aussi doivent avoir un bon degré de correction. Je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on doit mettre déjà tout de suite le doigt, Nati. Quand on est quelqu'un qui cherche à se faire recruter, vous nous entendez bien, hein, Nati?
Oui.
Il y a quelque chose qu'on appelle en psycho le taux d'agréabilité. Et Frédéric, évidemment, ne va pas me démentir. Je suppose qu'il conseille ça à tous ses clients. Vous n'avez pas deux occasions de faire une première bonne impression. Et on sait maintenant, grâce aux neurosciences, n'est-ce pas, Frédéric, que tout se joue dans les 0,1 seconde. Et lors de l'entretien, votre première bonne impression est importante. Donc, chaque détail compte, n'est-ce pas, du vestimentaire jusqu'au plus intérieur de l'être humain. Mais surtout, qu'est-ce que j'appelle le taux d'agréabilité? C'est qu'il faut savoir montrer qu'on est agréable aux gens, n'est-ce pas, qui vont embaucher quelqu'un d'agréable. Frédéric Cousin.
Tout à fait. Alors, le dress code est très important.
Très important.
J'ai eu des exemples aussi, je pense que Nati, ça peut vous intéresser, où venir en jean et en t-shirt pour un poste de commercial, ça le fait pas. Par contre, si vous venez pour un poste de chef de chantier, hein, ou de manœuvre, oui, ça peut
ça
le faire.
Peut y aller.
Donc, il faut adapter sa tenue. La bonne tenue, c'est celle qui correspond au métier pour lequel vous postulez.
Voire presque au secteur d'activité aussi, parfois.
Tout à fait. Bon, une fois, j'ai un client qui, parce que le commercial n'avait pas de cravate, alors ça remonte à
l'époque où on était tous en cravate.
Oui, parce que la cravate a un peu disparu aujourd'hui.
Ringardisé total, alors qu'on était tous en cravate il y a 15 ans, quoi.
Tout à fait. Eh bien, parce qu'il n'avait pas de cravate en entretien, il a été un petit peu désagréable avec le candidat. Et du coup, le candidat, bien sûr, n'a pas accepté d'être pris, alors que c'était le parfait candidat. Mais s'il lui avait posé la question, pourquoi vous n'avez pas mis de cravate, il aurait dit, écoutez, si je mets une cravate au bureau, tout le monde va croire que je vais passer un entretien de recrutement.
Mais c'est intéressant cette histoire de dress code, Frédéric Cousin. Vous avez tellement raison. Un jour, un haut fonctionnaire de Bercy m'a dit que le dress code va tellement loin, notamment chez les politiciens professionnels, qu'un ministre de l'économie et des finances de la France, en l'occurrence là pour l'instant c'est Monsieur le maire, ne met pas, écoutez-moi bien auditeur, la même paire de chaussures suivant quel est le ministre de l'économie de quel pays de l'UE il reçoit. Autrement dit, il va pas mettre les mêmes chaussures pour le ministre de l'économie et des finances de l'Allemagne que le ministre de l'économie et finances d'Italie ou de Suède. C'est juste incroyable. Le dress code va jusque là. Bien sûr, il y a un dress code des assistants de direction, il y a un dress code des commerciaux, il y a un dress code des techniciens, il y a un dress code. Nati, on peut vous demander dans quel secteur d'activité vous cherchez du travail, vous?
Alors moi, je cherche dans la comptabilité en particulier.
Est-ce qu'il y a un dress code du secteur de la comptabilité, Frédéric Cousin?
Non, parce que finalement, les comptables aujourd'hui, avec le digital, ne voient pas beaucoup les clients, sauf au moment où ils rendent, ils présentent le bilan de l'entreprise de leurs clients. Donc ça veut dire que, hormis la période où ils rendent les bilans à leurs clients, ils peuvent venir habillés en jean, en pull, en t-shirt, voilà.
Pas en tongs quand même.
Non, pas en tongs, mais dans le respect des autres. Parce qu'aussi, un dress code, être bien habillé, c'est aussi respecter les collègues.
C'est vrai. C'est déjà se respecter soi.
Tout à fait.
La première chose, c'est je le dis même à mes stagiaires, moi, dès le niveau 1 de ma méthode, il y a une corrélation, et ça, je le dis, et j'en connais un qui est juste devant moi, qui a déjà fait le niveau 1 de ma méthode. Votre estime de vous se voit dans votre manière de vous habiller. Parce que l'estime, c'est s'estimer, et les gens oublient cette acception de l'estime de soi, qui est la même chose qu'en immobilier, c'est-à-dire s'évaluer. Quelqu'un qui s'habille un peu à la mort-moelle-neu, en n'importe comment, montre son degré d'estime de soi. Et souvent, c'est parce que ce sont des gens qui se sous-estiment. Autrement dit, première exception de l'estime de soi, qui se sous-évalue. On estime, on évalue un bien. Nati, vous entendez? Ça vous parle comment, tout ce que je suis en train de vous dire en tant que life coach, là?
Moi, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire.
Et c'est important, parce que les jeunes générations doivent vraiment comprendre ça. Qu'il ne faut rien laisser au hasard, n'est-ce pas, Frédéric Cousin?
Non.
Rien laisser au hasard. Le mec va vous scanneriser, mais de l'intérieur, de l'extérieur, du pied aux cheveux. Vous êtes d'accord, Frédéric Cousin?
Depuis l'accueil jusqu'à le renvoi, et en passant par toutes les mots et toutes les questions posées, rien n'est au hasard, tout est calculé.
Rien. Et en termes d'ailleurs de dress code, on pourrait dire que c'est les apparences. Alors en France, il y a cette espèce de connerie bien bobo et bien Khmer verte, très professeur des écoles. Moi, j'ai une ex-amie qui disait toujours, les professeurs, ils ont un dress code aussi, et les filles, on les appelait les disigouales. Elles sont toutes fringuées comme des militants de la LO, et les mecs pareil. Cette idée que on se fout des apparences, parce qu'il compte, c'est la richesse intérieure, la profondeur de l'humain. Mais quelle bêtise! Parce que c'est pas du ou qui vous dit le coach, c'est mettre du et. On peut être ça et ça. Et qu'il est évident que, comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc arrêtez cette croyance limitante et invalidante qui est liée à votre saboteur, HQR2, que de penser que non, moi je suis habillé n'importe comment parce que moi je suis riche de l'intérieur. Mais vous êtes d'accord, Frédéric Cousin? Quelle connerie!
Il faut être riche de l'intérieur et de l'extérieur.
Et de l'extérieur. Parce que les gens, ils vous ne donnent pas deux occasions de vous considérer comme un clochard. Ou comme un mec qui se néglige. Et il n'y a pas pire que quelqu'un qui fait sale sur lui. Il n'y a pas pire qu'une femme ou un homme qui fait sale sur elle. Pas vrai, Frédéric Cousin?
On appelle ça le respect de soi-même et des autres.
Vous êtes d'accord, Frédéric
Cousin? Tout à fait.
Donc, voyez, on va continuer. Nati, on va vous souhaiter d'être embauché rapidement, hein?
Je vous remercie, c'est gentil.
Merci d'avoir participé à l'émission Pour Vivre Heureux, Mon Coaché. Vous pourrez la réécouter samedi à 12h, Nati. Comme ça, vous entendrez votre question, d'accord, sur Dynamique Radio, ok?
C'est très gentil à vous.
Et passez une belle soirée. Au revoir, Nati. À bientôt.
Au revoir, Nati.
Au revoir.
sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit, qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Rien qu'un tout petit bonhomme, malhabile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, l'ami des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il vit en temps de l'armée de douleur, et rêve de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspiré jour après jour de son souffle.
Le grand, l'immense Jean-Jacques Goldman qui vous dit, chers amis auditeurs, qu'on peut changer la vie si on est à sa place. Moi qui viens d'écrire un livre sur découvrir sa mission de vie. Là où on est, quel que soit son métier, si on fait ce pourquoi nous sommes redescendus sur la terre, et surtout, surtout, si on est dans sa zone de génie, eh bien, on change la vie. Vous êtes très nombreux à appeler, vous voulez poser des questions à Frédéric Cousin. On a une nouvelle Radio Coachée.
Christophe Médici, Radio Coachée.
Bonjour Delphine.
Oui, bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Dynamic Radio. Vous savez que notre invité central, c'est Frédéric Cousin, n'est-ce pas?
Oui, et
quelle question aimeriez-vous poser au sujet du recrutement à Frédéric Cousin? On vous écoute, Delphine.
J'aimerais poser cette question à Frédéric Cousin. C'est en tant que recruteur et DAF, j'aimerais savoir comment bien évaluer les compétences d'un candidat.
Frédéric Cousin, les compétences d'un candidat, c'est une excellente question, n'est-ce pas? Comment vous les évaluez?
Alors, tout d'abord, effectivement, je reprends un peu je reprends votre question tout à l'heure sur ma méthode, la CMPS. Ce qui est important, c'est vraiment, il faut évaluer les candidats sur les quatre plans. Compétences, motivation, personnalité, soft skills. Puisqu'un candidat, c'est une personne complète. Il peut pas être compétent et pas agréable et pas débrouillard.
Il faut que ce soit holistique.
Il faut que ce soit holistique. Donc forcément, pour s'assurer qu'on recrute le bon candidat pour son entreprise, encore une fois, c'est très intuitif personnel, il faut absolument savoir regarder sur ces quatre items. Si un des quatre items n'est pas validé, mon client ne rencontre pas le candidat.
Pour vous, c'est, il n'a pas passé les fourches codines qui peuvent aller, qui permettraient d'aller plus loin.
Disons que ça ne marchera pas.
Ça marchera.
Ça sera un échec pour lui et pour l'entreprise. Donc, à quoi ça sert de pousser
un candidat ? Ne voyons pas les gens
casse-pipe. Exactement. L'idée, on est là pour générer du positif. Et pour générer du positif, c'est justement, nous, on est là pour filtrer, pour s'assurer qu'une rencontre à succès va s'organiser. Si on n'est pas convaincu dans l'intérêt du candidat comme dans l'intérêt de l'entreprise, eh ben, on pousse pas.
Ce qui me fait rire. Delphine, ça vous parle comment tout ça? Après, il y a quelque chose qui m'a, ça m'a fait penser à quelque chose. Je vous en parlerai, chers amis auditeurs. Ça vous parle un petit peu ce que vous dit Frédéric Cousin?
Alors, bah, ça me parle, mais c'est compliqué en fait d'avoir justement ces quatre piliers réunis pour avoir justement le bon candidat.
Vous avez tout à fait raison. Vous savez ce que disait Goethe, Delphine? Tout ce qui est devenu facile a commencé par être difficile. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, vous l'écoutiez évidemment, elle repassera samedi à 12h, hein. C'est évidemment, le risque zéro n'existe pas. Parce que vous avez raison, Delphine, même parfois, je suis persuadé que vous êtes arrivé, Frédéric, hein, et à tout le monde, les quatre étaient là. Et puis boum, comme dit le proverbe de polytechnicien, c'est au sommet du mur qu'on voit le maçon. Je sais que c'est la deuxième fois que je l'ai dit, mais je l'aime beaucoup celle-là. Et donc, eh ben, au sommet du mur, il n'y a personne, Delphine, on est d'accord? Et le mur, il est de travers, on est d'accord ou pas, hein?
C'est ça,
Frédéric, elle pose une bonne, fait une bonne remarque, Delphine. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'effectivement, au-delà des quatre piliers, aussi la rémunération. On en parlera peut-être tout à l'heure.
Ah non, allez-y.
La rémunération, ça veut dire qu'on peut avoir le meilleur, enfin le candidat qui a les bonnes compétences, le candidat qui est avec qui ça match en termes de feeling, le candidat qui est débrouillard, le candidat qui a envie de ce poste-là parce que ça correspond à son projet professionnel, et ça fonctionne pas. Il y a personne au haut du mur parce que, bah, en termes de rémunération, bah, l'entreprise n'a pas les moyens de le rémunérer à la hauteur de ce qui se trouve.
Voilà, lui, il a des prétentions.
C'est ça.
Se dit en passant, chers amis auditeurs, les prétentions en France, c'est on a un problème. Il y a des croyances limitantes. Or, aux États-Unis et au Québec, ben, c'est normal d'avoir des prétentions. Et d'ailleurs, quand on dit au Québec, aux États-Unis, augmenter vos prétentions, c'est augmenter votre valeur, votre évaluation. On a un tel problème vis-à-vis de ça en France. Et quelles sont vos prétentions? Ah, quel prétentieux. Pas du tout.
Non, pas du tout.
Si tu t'évalues à 44, t'es à 44. Si tu
devais être
à 64, t'es à 64.
Et puis l'entreprise a le droit de dire oui, non.
Et voilà, l'entreprise dit oui, non. De toute façon, on mesure tout. Je sais pas ce que vous avez dit que vous étiez DAF aussi, hein, Delphine, n'est-ce pas? C'est ça?
Oui.
Oui.
Tout à fait.
Donc, en tant que DAF aussi, c'est pareil. Vous avez des recrutements à effectuer. En tout cas, vous avez une team. Vous managez une team.
Oui, je manage.
Combien de personnes vous managez, Delphine?
De 10 personnes.
Ben voilà, 10 personnes. Est-ce que vous avez parfois la sensation, d'abord, est-ce vous qui les avez recrutés ou vous les a donnés et vous devez les manager?
Non, je les ai recrutés. Certains d'entre eux, je les ai recrutés. Certains étaient déjà en place.
D'accord.
Donc, il y en a certains, effectivement, j'ai effectué le recrutement.
Vous avez effectué le recrutement,
d'accord. Du sourcing jusqu'à l'intégration.
D'accord.
Et d'ailleurs, l'intégration, c'est pas toujours non plus évident parce qu'on a beau, du coup, avoir les quatre piliers, plus la rémunération, plus tout, plus le candidat parfait, mais finalement, l'intégration se passe pas forcément bien.
Exactement.
Alors, justement, on va demander à Frédéric Cousin s'il va jusqu'à l'intégration. Ouais. Vous voyez, Delphine, c'est une question intéressante que vous posez. C'est hyper intéressant.
Alors effectivement,
est-ce que Delphine demande, est-ce que vous allez jusqu'à l'accompagner jusqu'à l'intégration la personne?
Alors effectivement, pour être très bref, il y a 6 étapes pour réussir un recrutement. La première, c'est réfléchir à savoir qui on cherche, donc la stratégie, l'identification, l'évaluation, la prise de décision, et enfin, naturellement, l'intégration. L'intégration fait partie prenante de recrutement, parce que s'il y a une mauvaise intégration, eh bien, le recrutement est raté.
Alors maintenant, là, moi, je veux savoir, je suis comme Delphine, je suis curieux, d'ailleurs, c'est une très belle maladie, la curiosité, puisque, et chers amis auditeurs, souvenir de Normal Sup, c'est la même étymologie que cure. Donc, quelqu'un qui est curieux, se soigne, hein, cure, curiosité. Et non pas, la curiosité est un vilain défaut. Non, ça, c'est la curiosité au sens des gens qui veulent savoir les cancans, ça.
Les potins.
Ouais, les potins, c'est pas la curiosité, ça. L'intégration chez vous, à Refea, elle se passe comment? C'est-à-dire, est-ce que vous allez en entreprise de temps en temps voir comment ça se passe? Vous demandez à la DRH de, par exemple, de l'entreprise de Delphine ou à Delphine elle-même comment ça s'est passé? Comment ça se passe le suivi intégratif?
Alors, il y a deux niveaux. Le premier suivi, c'est le suivi auprès des candidats, de nouveaux collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va l'appeler, on va lui souhaiter le jour même de son arrivée une belle aventure, une belle nouvelle aventure professionnelle. Et puis, on va l'appeler la première semaine, et le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et côté entreprise, ce qu'on propose, c'est un service d'accompagnement pour organiser un onboarding réussi. C'est-à-dire qu'on va conseiller les entreprises et orchestrer l'onboarding de leurs nouveaux collaborateurs. L'intégration, ouais. Le parcours d'intégration, pour être très précis,
ouais.
Du nouveau collaborateur d'entreprise, avant le jour J, ça veut dire s'assurer de commander l'ordinateur, de s'assurer qu'il ait une chaise, un bureau, un téléphone, un ordinateur, ou que son poste de travail en tout cas soit prêt. C'est s'assurer qu'il va bien, qu'il va toujours venir, parce qu'aujourd'hui le ghosting concerne aussi les candidats. C'est le jour J, organiser un petit déjeuner, le présenter à l'équipe.
Bien sûr.
C'est après lui présenter ses collègues, lui présenter ses missions, le former, l'accompagner les premières semaines, les premiers mois, et s'assurer régulièrement que tout va bien, qu'il n'a pas de questions, et que idéalement nommer un mentor qui va être son référent en interne pour toute question d'organisation de vie pratique dans l'entreprise.
Quelqu'un qui parrainerait ou le marrainerait d'une certaine manière. Ça vous parle comment, Delphine, tout ça?
Moi, ça me parle que suite à cette émission de radio, je pense que je vais appeler monsieur Frédéric Cousin, en tout cas, parce que ça serait génial s'il peut nous aider justement sur l'intégration des candidats.
Oui.
Et voir peut-être plus, parce que parfois on se sent un petit peu seul en entreprise, parce que je suis pas à la base une recruteuse, puisque je suis DAF. Et effectivement, on fait pas forcément toujours les bons choix et l'intégration, c'est pas facile non plus.
Oui, justement, on trouve facilement les références de Refea sur la toile, n'est-ce pas, Frédéric, sur Google.
Refea.fr,
voilà,
et vous trouverez.
Refea.fr, on vous trouve. Et en tout cas, merci Delphine. Toute notre gratitude d'avoir participé à l'émission, c'était passionnant.
Merci
à très bientôt.
À vous, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses.
On vous embrasse.
Merci.
Bonne soirée.
Merci,
au revoir,
Delphine.
Au revoir.
Donnez-lui la passion. Donnez-lui ce qui fait que quand tout est bidon, quelque chose reste vrai. Donnez-lui cette flamme qui ne s'éteint jamais, qui survit même aux drames les plus longs, les plus laids. Donnez-lui la passion avant de m'inviter dans votre grande maison, dans votre éternité. Ce sera sa bouée, son instinct de survie quand j'irai vous retrouver dans votre paradis. Donnez-lui la passion, creusez-lui l'appétit pour qu'elle ait des raisons de mordre dans sa vie. Si vous prenez la mienne, donnez-lui au moins ça pour soulager sa peine, pour remplacer ma voix quand ma jeune malheureuse cherchera le sommeil, que chanterait sa berceuse du haut de votre soleil. Donnez-lui la passion pour qu'elle tende l'oreille, qu'elle entende ma chanson et qu'elle s'en émerveille. Donnez-lui la passion pour qu'elle s'y accroche. Si le monde est trop con, si la vie est trop moche, donnez-lui la passion qui transporte, qui lui fera comme un pont au-dessus de sa mère morte. Si je m'en vais si tôt, je la verrai pas grandir. Donnez-lui ce cadeau qui l'empêchera de mourir. Je voudrais pas qu'elle s'ennuie, je voudrais pas qu'elle m'en veuille. Elle a le cœur trop petit pour porter mon gros deuil. Donnez-lui la passion pour qu'elle ait le cœur gros, puis la permission d'éclater en sanglots. Donnez-lui la passion pour qu'elle ait du courage, pour qu'elle ait une mission. Ce sera mon héritage. Donnez-lui cette richesse et je promets de ne pas gêner, même s'il faut que je la laisse pour aller vous rejoindre. Ne me faites pas fondant, c'est tout ce que je vous demande. Donnez-lui la passion pour qu'elle devienne grande. Je ne veux pas m'en aller, je veux vieillir avec elle. Si vous décidez de me piéger dans votre ciel, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse de mes ailes? Si elle peut pas voler, ma petite hirondelle. Si jamais je déménage sans l'avertir avant, que je pars en coup de vent vers votre grand nuage, que je pars pour de bon et que je l'abandonne. Donnez-lui la passion et faites qu'elle me pardonne.
Donnez-lui la passion, nous dit la grande poétesse Linda Lemay. Oui, je pense que donner la passion, faire une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, Frédéric Cousin, quand on la fait avec passion, on est bien, quoi. On a le sourire. Après, y a des gens qui ont une activité professionnelle, il faut dire la vérité, qui est plutôt algorithmique et pas heuristique, c'est-à-dire plutôt répétitive. Mais même eux, ils peuvent trouver une manière de le faire avec passion, qu'en pensez-vous ?
Tout à fait, vous l'avez dit tout à l'heure, on fait des grandes choses que si on est passionné. La passion permet d'outrepasser les difficultés, les contraintes, les déceptions, et permet de toujours maintenir le moral le plus haut possible pour avancer. Et dans le recrutement, on est dans l'humain, donc il y a des joies immenses de réussir un recrutement, et puis il y a des déceptions aussi immenses de voir un candidat partir ou une entreprise arrêter son process de recrutement alors qu'on a trouvé la bonne personne pour l'aider à bien fonctionner et à grandir. Donc c'est vrai que c'est un métier frustrant, puisque on ne fabrique pas de produits, un humain peut changer d'avis, un humain peut avoir envie de pas avoir envie justement, et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir, parce que dans ton métier, ce qui est important, c'est de pas juger les gens. Nous, on est là uniquement pour les évaluer et pas pour les juger. Et ça, c'est important. Donc du coup, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. On est là pour dire éventuellement, avec humilité, ça correspond pas dans votre intérêt et dans l'intérêt de l'entreprise. Et nous, si vous voulez, pour être très simple, c'est le conseil que je donne à tous mes clients, c'est il faut considérer les candidats comme des clients. C'est la première chose à faire si on veut commencer déjà à créer du lien et faire en sorte que de donner envie. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de trouver que des gens compétents, avec le bon feeling, qui ont le même projet et qui sont des brouillards. Il faut trouver des gens, il faut les séduire. Il faut leur donner envie de venir parce qu'ils ont le choix. Les candidats ont le choix. Ceux qui ont envie de travailler, qui sont enthousiastes et qui savent faire des choses, ont le choix de trouver un employeur. Donc, il faut savoir donner, savoir séduire.
Il faut faire la différence. Il faut qu'ils aient envie de venir chez vous plutôt que chez l'autre.
C'est ça. Notre métier aujourd'hui, c'est pas seulement de trouver les candidats. Bien sûr, c'est la base. Il faut les trouver. Il faut les évaluer pour s'assurer que ça correspond. Mais après, il faut leur donner envie d'aller voir nos clients.
Généralement, un recruté, Frédéric, dans votre démarche, dans votre process, parce que tout est un process d'une certaine manière, vous le voyez combien de fois avant de le présenter, de valider que vous le présentez à une entreprise?
On a une originalité dans notre cabinet qu'on... A priori, je ne vois pas beaucoup, en tout cas, dans d'autres cabinets, c'est que on fait systématiquement réfléchir le candidat après l'avoir eu au téléphone. C'est-à-dire que une fois qu'on a le CV sous les yeux, la première action, c'est de l'appeler pour faire connaissance et pour poser les questions.
Déjà, il y a une conversation téléphonique.
Déjà, on est là pour évaluer son projet, si son projet correspond à ce qu'on a lui proposé, si en termes de compétences, il sait faire ce qu'on mon client attend qu'il sache faire, si en termes de rémunération, on est dans le budget. Si ces éléments-là sont positifs, eh bien, on le fait réfléchir. On lui envoie une présentation du poste, de l'entreprise, on l'invite à se renseigner pour vraiment s'assurer que l'étape d'après, qui est de se rencontrer, soit en visio, soit en physique, est utile pour lui et pour nous.
Bien sûr, bien sûr.
Donc là, on fait systématiquement réfléchir et là, et à ce stade-là, eh bien, on perd des candidats et c'est normal. Ils ont le droit. Parce qu'au téléphone, on échange, ils sont peut-être, on est plutôt sympa chez RFR, donc ils ont envie d'avancer. Mais finalement, à froid, quand ils y réfléchissent, ils disent, finalement, c'est trop loin ou c'est que ça me correspond pas vraiment. Je veux une entreprise plus grande, plus petite. Ouais. Donc ils ont le choix. Il suffit juste qu'ils nous le disent. Et nous,
parfois, le critère géographique est très très fondamental pour beaucoup de gens. On entend beaucoup de gens dire, on a l'impression que c'est trop loin de chez moi. On a l'impression qu'ils voudraient avoir un boulot dans leur rue. Beaucoup. Les vieilles générations, même les générations comme les nôtres, étaient pas tout à fait comme ça quand même. On était prêt à faire 30, 40 kilomètres.
Ça a bien changé.
Ça a bien changé. Ils veulent vraiment. Et alors là, c'est ma question qui vient. Il y a l'avant-Covid et l'après-Covid et il y a l'arrivée avec le Covid du télétravail. Et alors ça a changé énormément la donne, n'est-ce pas Frédéric Cousin, le télétravail?
Tout à fait. Mais avant de parler de télétravail, je vais rebondir sur la distance qui est un point aujourd'hui essentiel. Aujourd'hui, avant de venir... J'ai un candidat qui m'a appelé pour me dire « Finalement, je choisis pas telle entreprise, mais celle-ci. » Alors, je lui pose « Pourquoi vous avez fait votre choix ?» Il m'a dit « La distance. J'avais le choix entre un job à 30 minutes de chez moi ou à 10 minutes de chez moi. J'ai pris celui à 10 minutes de chez moi. »
Et même si c'est un peu moins bien payé.
Non, c'est équivalent. Même salaire. Mais voilà.
Mais ça, on peut le comprendre.
Mais tout à fait. Donc, aujourd'hui, tout ça pour dire que la distance est tout à fait fondamentale. Ça veut dire que il y a 10 ans, en Ile-de-France, une heure et quart, c'était normal. Acceptable, en tout cas. Aujourd'hui, on est plutôt sur une demi-heure, 45 minutes. Au-delà, il y a des candidats aujourd'hui qui le font, il y a des collaborateurs qui font plus d'une heure, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Et aujourd'hui, on a des refus. Ah non, c'est trop loin. Alors que, il y a 10 ans, j'avais jamais de refus pour la distance, sauf si c'était exagéré. Mais au-delà, mais maintenant, à moins d'une heure, on a des refus parce que, même si les gens n'ont pas d'autres opportunités, mais ils disent, non, c'est trop loin, je travaille. Et j'ai même eu, je vais travailler à 10 minutes à pied de chez moi. Donc là, évidemment, on n'a pas pu l'aider.
Oui, non mais, c'est-à-dire, on comprend que, je pense qu'il y a un effet, entre guillemets, pervers, je peut-être pas complètement le mot, mais de cette invasion du télétravail. D'ailleurs, les dernières études prouvent que maintenant, de plus en plus, les jeunes générations, et même les moins jeunes, s'il n'y a pas de télétravail, vous allez me dire, il y a des activités qui ne peuvent pas faire télétravail. Quand tu t'occupes de tes femmes de chambre, ou tu fais les ménages, ou tu laves les bureaux, je veux dire, tu peux pas faire télétravail. J'ai un ami dans le BTP comme ça. Conducteur, travailler sur les chantiers, j'ai une journée de télétravail, non, voilà, on rigole. Mais pour beaucoup de gens dont l'activité peut avoir du télétravail, ils veulent tous du télétravail.
Oui, ils veulent tous au moins une journée.
Au moins une journée, si ce n'est deux, et dans certaines grosses boîtes, c'est trois journées de télétravail.
Alors, le minimum, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que les collaborateurs veulent à la fois du lien social, donc venir en entreprise pour échanger avec les collègues, et puis d'autre côté, ils veulent quand même un, voire deux jours de télétravail par semaine pour des raisons personnelles de distance, de trajet, de gestion des sujets familiaux.
Mais moi, je suis persuadé, Frédéric Cousin, que c'est une incidence, un effet pervers sur la cohésion d'équipe, sur le team building et sur la culture d'entreprise. On peut pas imaginer que le fameux sentiment d'appartenance à une structure n'ait pas baissé depuis l'émergence importante du télétravail. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est essentiel. À une journée par semaine de télétravail, on a encore ce sentiment d'appartenance s'il est animé, s'il est orchestré en interne. Mais à partir de 3, ça devient compliqué. Et du coup, c'est ce qui permet de, les candidats, finalement, les collaborateurs restent, partent plus facilement. Parce que comme il n'y a pas ce lien qui est fort, bah, ils sont moins attachés.
C'est des mercenaires. Moi, j'avais une jeune, qui avait fait mes stages à la méthode HQR. C'était une jeune, pas si jeune que ça, d'ailleurs. Elle était milieu de trentaine. Non, elle n'était pas si jeune que ça. Elle était contrôleur de gestion. Et elle venait de rentrer chez Mercedes. C'est pas une petite boîte, Mercedes. Enfin, en tout cas, c'était Mercedes France. Et elle me disait, bon bah voilà, je suis manager puisque elle était embauchée comme chef du service. Elle avait connu donc la période d'avant télétravail, donc d'avant Covid, parce que sous modo le télétravail arrive au Covid, hein, on est d'accord. Et d'après, et elle me dit, je préférais avant. Pourquoi ? Avant, ça grouillait, tout le monde était là, on était au café ensemble, la team existait. Maintenant, vous arrivez au travail, vous savez pas qui est là et quand. Les open space, comme les bureaux, sont à moitié vides, soit aux deux tiers vides, parce que bah il y a l'autre, mais il travaille les deux derniers jours de la semaine, et ça donne des peu. Il y a un côté fantomatique dans l'entreprise qu'elle détestait. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Cousin ?
C'est vrai que ça joue sur le moral, le fait de pas être sur place. Aujourd'hui, on a des candidats quand même qui reviennent du télétravail, qui nous disent non, moi je veux pas de télétravail, je veux 100% présentiel. C'est pour ça que la distance peut avoir son importance, parce que je veux limiter la contrainte des transports. Vous savez tous bien que les transports à Paris sont compliqués, qu'il y a souvent des problèmes.
L'Île-de-France est sursaturée en voiture.
Et je vous parle pas des JO. Donc, il y a une fatigue de transport, il y a une lassitude des transports.
On sait que ça génère un stress.
Exactement.
On sait que ça génère du mal-être.
Et aujourd'hui, comme il y a quand même un marché de l'emploi qui est assez vivant et qui est assez à l'avantage des candidats, bah, certains exagèrent et rêvent, mais il y a quand même une partie des candidats qui sont réalistes et savent qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir le choix entre plusieurs opportunités.
Alors maintenant, on va mettre les pieds dans le plat, Frédéric, d'accord? On va faire un petit peu, sans faire de politique, mais on va y aller. Je suis psychosociologue, vous êtes un homme de terrain, un entrepreneur. D'accord, le marché du travail est vivant, mais le marché du travail français est d'une ambivalence crasse. Pourquoi ? Et vous savez mieux que moi ce que je vais dire à nos auditeurs. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de gens qui recherchent un emploi. Il est vivant. Il y a des postes à pourvoir et il y a des secteurs d'activité qui pleurent tous les jours. Je pense au BTP, je pense à la restauration, deux symptomatiques, parce qu'ils ne trouvent jamais les personnes qu'ils souhaitent. C'est quand même d'une ambivalence incroyable. Comment, c'est une équation, c'est pas une aporie, vous savez ce que c'est une aporie, Frédéric Cousin, hein, ça veut dire, chers amis auditeurs, en philosophie, une aporie, c'est un problème irrésoluble. C'est quand même pas une aporie, et pourtant, ça dure depuis quelques temps en France, on a l'impression que c'en est une, Frédéric Cousin.
Pour moi, l'explication de cette pénurie, c'est surtout que, moi je l'ai vu, hein, j'ai vu beaucoup de gens, après le Covid, j'ai vu pas mal de personnes qui venaient de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, qui disaient, moi je veux travailler du lundi au vendredi, je vais avoir mes soirées, je vais avoir mes week-ends. Et qui ont repris les études, ou qui ont pris des postes d'assistant, enfin, des postes...
Qui ont changé de secteur.
Qui ont changé complètement de secteur. Et il y en a énormément. Et pas forcément pour des salaires moindres. Donc il y a aujourd'hui, comme il y a du choix de travail moins fatigant et moins contraignant que les métiers que vous venez de citer, Bah du coup, ils avaient moins de personnel et moins de candidats.
Ce que vous voulez dire, c'est que ces secteurs d'activité-là ont un cruel manque d'attractivité. On est d'accord ?
On est d'accord.
Parce que, alors, c'est terrible. Vous et moi, on a des amis dans le BTP. Ils se considèrent un peu comme les secteurs d'activité poubelles. Autrement dit, ils prennent les dernières recrues, ceux que personne n'a voulu, dont personne n'a voulu. Un peu pareil dans la restauration, malheureusement. Ils prennent ceux dont personne ne veut. En fait, d'une certaine manière. Pourquoi ? Évidemment, c'est des horaires de chien. C'est payé, il faut dire la vérité, les trois quarts avec un lance-pierre. C'est la vérité, on est d'accord.
Ça change,
mais certains. Et donc l'attractivité de ces secteurs-là est terrible. Et pourtant, donc ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui préfèrent rester au chômage, voire aux minima sociaux, plutôt que prendre un poste dans le BTP.
Tout à fait. Alors un des palliatifs des entreprises. Moi, j'ai un client que je citerai pas, mais que tout le monde connaît, puisque il consomme régulièrement, je pense, des produits qu'il fabrique dans la logistique. À défaut de trouver des logisticiens, des personnes, des opérateurs qui vont préparer les commandes pour que dans le même supermarché, on ait ces produits-là pour qu'on puisse les consommer, eh bien, automatise l'entrepôt. C'est-à-dire que c'est pas une volonté de leur part d'automatiser, de remplacer l'emploi par la machine. C'est parce qu'ils ne trouvent pas de personnes qui sont obligées de se dire, on va automatiser. Et je pense qu'aujourd'hui, les métiers de BTP, la restauration, c'est encore un peu différent, mais logistique, BTP, effectivement, la machine peut rendre moins pénible le métier et donc rendre plus attractif les métiers par la
Alors, ça pose une autre question qui est celle-là encore plus fondamentale et essentialiste, c'est qu'avec le tsunami de l'IA, le tsunami de tout ce monde-là qui est en train d'arriver, qui est déjà là depuis quelques années, on sait d'après les études du Bureau international du travail que près de 50% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. 50 à 70% n'existeront plus en 2050 et qu'en même temps, on ne connaît pas réellement 50% des métiers qui existeront en 2050, Frédéric Cousin.
C'est l'inconnu total.
C'est le grand inconnu. Mmh. Et là, on est vraiment dans une ère, à l'époque de l'humanité, c'est la quatrième révolution après la révolution de la science, la révolution industrielle, la révolution du 17e siècle scientiste, la révolution du 19e siècle industriel, la révolution après de l'informatique. Ben là, on est à la quatrième révolution. Ce qui arrive avec l'IA, c'est hallucinant. Il y a plein de métiers qui vivent encore, mais en fait, ils sont comme un canard qui a la tête coupée, qui court encore. En fait, c'est des métiers qui sont morts. C'est terrible à dire. Moi, j'ai, comme vous, chers amis auditeurs, et comme vous, Frédéric, hein, testé quelques apps comme ça, IA. Mais ce qui est capable de faire l'IA, métier que tout, c'est terrible à dire. Tous les gens qui font des logos, les graphistes, la PAO, la CAO, CAO, on va le dire tout bas parce qu'on adore ces gens-là. Mais c'est mort. L'IA te fait ça en 5 secondes. Création de site internet, tout ça, webmaster et tout ça, ça existe encore, mais c'est quasiment mort. Des applis de l'IA te fait ça en 5 secondes, mais t'es journaliste, à chaud aux fesses. Je veux dire, l'IA te fera ça en une seconde, c'est terrible ce qu'on est en train de dire, n'est-ce pas? Tous ces métiers-là vont passer à la poubelle.
Et ben, ils vous feront des métiers moins pénibles, mieux payés, et ils seront formés pour ça. L'important, c'est la formation, et vous savez bien, Christophe.
C'est mon métier.
C'est votre métier. Il faut former les gens au nouveau métier. Et ça, c'est très important que les entreprises prennent conscience de bien former leurs collaborateurs vers les métiers de demain, pour éviter de laisser certains sur la route et avoir des conséquences sociales.
Mais vous devez intégrer dans le recrutement cette dimension de l'IA, Frédéric.
Complètement.
Très important.
Nous, l'IA, on a un outil qu'on a développé nous-mêmes pour aider à gérer les candidats.
Ah oui.
L'idée, c'est pas de remplacer les tâches humaines, les humains par la machine, c'est de valoriser les tâches humaines, les fonctions humaines, la valeur de l'intervention humaine, c'est-à-dire la capacité d'analyse et le relationnel, le fait d'aider, d'accompagner les candidats, aider par l'IA pour pouvoir être plus efficace et plus rapidement, parce que on a beaucoup de candidats. Et il faut prendre du temps pour... Donc l'IA nous aide à avoir le temps pour pouvoir traiter individuellement chaque candidat.
C'est formidable. Restez avec nous, c'est passionnant. On passe une page musicale. Vous êtes nombreux à appeler. On va essayer de tous vous prendre. Restez avec nous.
J'ai essayé à 100 reprises de vous parler de mon ami. Mais comment parler d'une église dont l'accès vous est interdit? Mais ce soir, je sens sous ma plume un fourmillement familier. Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui, lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Comme une chèvre vendéenne, de ses secrets il est jaloux. Et même s'il a de la peine, il ne vous parle que de vous. Il conserve de son bel âge un sourire au fond de ses yeux. Et je me dis que c'est dommage de vous le décrire sans cheveux. C'est mon ami et c'est mon maître. Je le vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai mal dedans mon être, je passe une heure ou deux chez lui. L'air qu'on respire à sa fenêtre, c'est l'air le plus pur de Paris. Il porte en lui dur comme une arme, un orgueil au-delà de tout. Au point que même au bord des larmes, il vous fera croire qu'il s'en fout. C'est lui qui a fortifié mon âme. Et si je suis encore en vie, je ne dois pas à cette femme qui me rend heureux aujourd'hui, mais à mon ami, à mon maître. Et dans la chanson que voici, je sais qu'il va se reconnaître. Mais puisque nous sommes entre amis, ce soir, je peux bien me permettre de vous le présenter aussi.
Mon ami, mon maître, nous dit le grand Serge Lama, que j'admire tant. Parfois, on peut se faire des amis dans le monde du travail. Il est bon aussi de savoir qu'on peut travailler avec des gens qui ne sont pas des amis, parce que nous avons une relation professionnelle et on attend d'un collègue du professionnalisme. On a un nouveau radio coaché.
Oui. Christophe Médici, radio coaché.
Bonjour Olivier.
Allô.
Bonjour Olivier, vous m'entendez?
Oui,
nous
bonjour.
Sommes heureux de vous accueillir sur les ondes de Dynamique Radio pour vivre heureux et vous en coacher. Vous savez que notre invité central, c'est Frédéric Cousin, l'immense professionnel et un des plus grands pontes du recrutement en France. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question à Frédéric?
Alors, j'aimerais demander quels sont les ingrédients d'un recrutement réussi.
Ah, c'est intéressant. C'est un peu comme une bonne recette. Hein. Frédéric Cousin, les bonnes recettes d'un recrutement réussi.
Bonjour Olivier, merci pour votre question. C'est forcément de l'humain, beaucoup d'humain et de l'envie.
L'humain et encore de l'envie.
Oui, l'humain est important, c'est un mot, ouais. Je me répète, mais c'est hyper important parce que on peut ne pas être très compétent, mais si on a l'humain, c'est-à-dire l'envie d'apprendre, si on est volontaire, si on est à l'écoute, si on est motivé par faire des efforts, parce que ce qui se perd aujourd'hui, c'est le goût de l'effort, c'est ça qu'on observe, et quelles que soient les générations, le goût de l'effort se perd parce que la société permet justement d'avoir les choses plus facilement qu'avant. Du coup, on n'est plus forcément dans l'effort. Alors que quelqu'un qui exprime l'envie d'apprendre, tout simplement, et de faire, sera plus séduisant, donnera plus envie à un recruteur d'être choisi que celui qui sait faire.
Alors, déjà, ça vous parle comment, Olivier, ce que vous dit Frédéric Cousin? Parce que c'est un premier ingrédient, mais il y en aura d'autres certainement qui va vous donner. Ça vous parle, tout ça?
Oui, oui, exactement. Oui, oui, tout à fait.
Vous avez besoin d'être recruté en ce moment?
Oui, oui, oui.
D'accord, ok.
Oui,
oui. Alors, est-ce qu'il y a un autre ingrédient, Frédéric Cousin, en plus de cette dimension humaine, qui est importante pour qu'il y ait un bon recrutement? Je pense que l'expérience, hein, la phrase de Confucius est très belle, l'expérience des autres est un peigne pour chauve. Vous êtes un homme de 20 ans d'expérience, vous avez commis des erreurs les premières années que vous ne commettriez plus maintenant.
C'est vrai que l'expérience est importante. L'expérience, c'est finalement transformer ses efforts en réflexe. Et tout à l'heure, vous disiez que plus on fait les choses, plus c'est facile. C'est à partir du moment où ce qu'on fait est facile, ça veut dire qu'on maîtrise ce qu'on fait.
Oui, on a la fameuse théorie des 10 000 heures d'Erickson. On sait très bien, chers amis auditeurs, qu'au bout de 10 000 heures, on a un certain niveau d'excellence qui est arrivé. Je rappelle à tout le monde que 10 000 heures, en raison de 8 heures par jour, ça fait 5 ans d'une vie. Or, vous, ça fait 20 ans, moi, ça fait 30 ans que je forme. Évidemment, on est dans l'expérience de... Alors là, on dit souvent qu'on est dans la zone, comme on dit en hypnothérapie, c'est qu'on fait ça un peu tranquille, quoi. On est dans le domaine d'excellence, c'est vrai, n'est-ce pas, hein?
Tout à fait. Alors, dans notre métier, ce qui nous empêche d'être dans notre zone de confort, c'est qu'il faut perpétuellement se remettre en question parce que les mentalités changent, le marché du travail change, et donc les technologies changent. Donc si on recrute comme il y a 20 ans, eh bien, on recrute mal.
Vous pouvez plus recruter comme il y a 20 ans.
Non.
C'est évident.
Et c'est ça qui est intéressant, qui fait qu'au bout de 20 ans, j'ai rencontré plus de 8000 candidats, et que je me lasse pas aujourd'hui en rencontrer parce que déjà chaque candidat est unique, mais ensuite parce que la méthodologie de recrutement a changé.
Mais c'est ça, bref, complètement. Et là, en plus, alors, on arrive avec l'IA. Je crois qu'on peine à voir ce tsunami. On peine à même. Alors moi, j'ai pas du tout la même vision que j'ai lu le livre de Raphaël Entoven, qui est dithyrambique et qui pense que de toute façon l'intelligence humaine sera toujours là au-dessus et tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Moi, je dis il y a du mouron à se faire, il y a des questions à se poser. Et évidemment, il y a une dynamique exceptionnelle. Évidemment, de toute façon. On fera pas machine arrière et on est embarqué, donc c'est même pas la peine de penser de faire ailleurs. On n'arrête pas le progrès, vous connaissez l'expression, hein, chers moniteurs. Pour autant, moi je pense que l'être humain peut encore en la matière la jouer à l'apprenti sorcier et avoir des nouvelles bombes atomiques. Avec beaucoup de guillemets, et si vous connaissez l'anecdote, Frédéric Cousin, hein, il y a une poignée de mois là au MIT, donc c'est un des hauts lieux où la recherche sur l'IA se fait aussi aux States, chers amis auditeurs. Deux IA avaient créé un langage, se parlaient entre elles. Les chercheurs qui avaient créé ces IA là les ont débranchés. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient plus ce qu'elles se disaient.
Incroyable.
C'est quand même quelque chose. Et on est au Moyen Âge de l'IA. On est au Moyen Âge en 2024. Et sa vitesse a augmenté, n'est-ce pas, Frédéric? À une vitesse, mais exponentielle chaque jour. C'est Olivier, n'est-ce pas? C'est ça?
Oui, c'est
vous
ça.
Vous aviez une autre question à poser à Frédéric Cousin au sujet du recrutement?
Bah, justement, là, vous parliez de l'IA. C'est vrai que c'est quand même, bon, ça fait peur parce que, bah, effectivement, on peut vite être remplacé, hein, par ce genre de technologie qui se met en place petit à petit, quoi.
C'est-à-dire, je sais pas ce qu'en pense Frédéric, vous avez à vous répondre là-dessus, parce que lui, c'est l'IA intégrée au recrutement. Il y a beaucoup de fantasmes en la matière. Faut éviter deux écueils, l'excès de peur et d'anxiété, vous êtes d'accord avec moi, et l'excès d'hyperconfiance, du style, mais l'intelligence humaine maîtrisera ça toujours. Moi, je dis, mon Dieu, ayons une position médiane, et vous dites quoi?
Je dis que l'IA peut être intéressante pour nous faciliter la vie et valoriser le travail des recruteurs, si je parle de mon métier. Tant que l'IA améliore le travail des recruteurs et respecte les candidats et les entreprises, tout va bien. Le doux, c'est de pas perdre le contrôle de l'IA.
Et là, en la matière, on est sûr de rien.
On est sûr de rien.
On est sûr de rien parce que déjà, prenons simplement, on sait très bien que, quelles que soient les découvertes de l'humanité, tout au long des siècles, et là c'est l'ancien historien qui vous parle, elle l'a toujours utilisé pour le plus lumineux comme pour le plus ténébreux. On peut pas faire l'économie de penser que quand ce sera mis entre les mains de gens basse qualité rationnelle, comme je l'en appelle dans ma méthode, de gens dark, hein, voilà, qui sont dans la dark side, du côté noir, ils utiliseront l'IA à des fins répréhensives et des fins inhumaines, on va dire quelque part. Et même on sait, Frédéric, vous êtes d'accord avec moi, que les nouvelles armes, les nouvelles armées et les nouvelles guerres se feront avec l'IA, elles se font déjà avec l'IA, avec les drones, avec les nouveaux, vous avez vu les nouveaux missiles là, à tête chercheuse, machin. Enfin, c'est évident que l'IA va être partout. On est attaqué parce qu'avec l'IA, l'espionnage a complètement changé, parce que je pense que les États sont espionnés avec l'IA, n'est-ce pas, Frédéric Cousin? Donc, elle est là, la guerre de l'IA. Elle est déjà là, l'utilisation de l'IA dans la guerre. Et elle va être exponentielle. Olivier, on va vous embrasser.
Oui, ben avec plaisir.
On va vous remercier d'avoir participé à Pour Vivre Heureux, Yvon Coaché, et réécouter l'émission à midi samedi prochain.
D'accord. Bon, bah, très bien, c'est noté. Au revoir.
Merci Olivier.
C'était intéressant ce que nous disait. On sent qu'il y a un côté anxieux chez les recrutés quand même. Il y a un côté anxieux chez les recrutés. Il y a un côté très anxieux. Et c'est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, le chercheur d'emploi, il a des angoisses. Bon, il en a toujours eu, mais est-ce qu'il y en a des nouvelles?
Pour l'instant, les nouvelles, c'est pas trouver d'emploi. Donc c'est pas nouveau.
C'est de tous les temps. Ouais.
L'angoisse d'un chercheur d'emploi, c'est pas en trouver. L'angoisse d'une personne qui est en poste mais qui est pas bien dans son poste, c'est pas de trouver un poste où elle sera mieux. Il y a des personnes effectivement que je vois qui changent de poste mais qui trouvent pas forcément mieux parce que le recrutement n'est pas, enfin la méthodologie de bien recruter ne concerne pas que les entreprises. Les candidats doivent aussi poser des questions, et j'encourage, si je devais aussi donner un autre conseil aux auditeurs qui recherchent un emploi, qui veulent changer d'emploi, c'est de poser des questions, d'être curieux et de poser des questions à l'entreprise qu'ils rencontrent. Comment ils fonctionnent? Quel est le taux de turnover? Pourquoi le poste est ouvert? Quelle est la culture d'entreprise? Quelles sont les valeurs? Quels sont les projets? Quelles sont les ambitions? C'est important de s'inscrire dans un projet dans la durée. Il ne s'agit pas de faire un job. Moi, ce que je dis aux candidats, c'est ne prenez pas un job, choisissez un projet d'entreprise.
C'est ça. Et sentez si c'est en phase avec vos valeurs.
Complètement.
Sentez si c'est en phase avec qui vous êtes. Bon, parce que tant qu'il y a des prérequis qui peuvent être bons, déjà, on ne dit pas que c'est la garantie à 100% que ça pourrait être bien, mais ça limite déjà le risque de s'être planté et d'un côté et de l'autre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, évidemment, vous, je pense que vous jouez vraiment un rôle de go-between hyper crucial. Vraiment, parce que plus vous connaissez, mieux vous connaissez la culture de l'entreprise pour laquelle vous recrutez, et mieux vous connaissez le recruté, vous allez faire que ça matche.
Et mieux on valide ou pas les candidats dans l'intérêt du candidat comme de l'entreprise.
On passe une page musicale, restez avec nous, on va voir maintenant les derniers chapitres du livre « Réussir son recrutement ».
Of love asleep and tired, are rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake, 'cause I'm your lady and you
écoutez-vous?
The Power of Love, nous dit la grande Céline Dion. C'est vrai que le pouvoir de l'amour, Frédéric Cousin, allons-y. En fait, on a toutes et tous besoin d'amour. Et quelque part, bah, il y a des gens qui vont nous aimer dans une entreprise et vous allez aimer une entreprise. Et l'idée, c'est aussi une forme, avec beaucoup de guillemets, d'histoire d'amour qui démarre.
Alors, on compare à l'amour, mais c'est, on parle d'aventure professionnelle, on parle de séduction professionnelle, on reste dans le cadre professionnel, mais effectivement, les ressorts, c'est...
affectif.
On parle
de séduction professionnelle.
Il y a de l'affectif, forcément. Parfois, j'ai des clients et des candidats qui me disent c'est peut-être pas le projet le plus intéressant, c'est peut-être pas la rémunération la plus intéressante, c'est peut-être pas à côté de chez moi, mais j'ai envie de travailler avec cette personne et cette équipe.
D'ailleurs, ça. Les attentes, n'oubliez jamais, chers amis auditeurs, qu'elles sont toujours doubles. Hein. Il y a des attentes liées à quelque chose de très concret, du matériel, la finance, le contrat, mais il y a des attentes affectives aussi. Elles sont là, elles sont moins explicitées, mais il y en a. Elles existent de toute façon.
Moi, je vois beaucoup de candidats qui restent plus longtemps qu'ils auraient dû rester en termes d'intérêt professionnel parce qu'ils étaient attachés à l'équipe, parce qu'ils étaient attachés à leur manager. En général, quand je pose la question à un candidat, pourquoi vous voulez changer d'entreprise? On parle d'argent, on parle de distance, on parle de j'ai fait le tour. Mais quand on creuse un peu, c'est le manager.
Bien sûr.
C'est parce qu'il y a un changement de management, ou parce que le manager a changé, parce que la politique d'entreprise a changé. Bref, il y a un changement structurel ou,
enfin,
il y a un
humain aussi.
Il y a un changement humain.
Mais regardez, prenons comme exemple, typique, les sports collectifs. Prenons le football, qui est quand même l'opium du peuple et le sport que je connais le mieux. D'ailleurs, j'en ai fait 30 ans et à un certain niveau. Donc, mais prenons le sport professionnel, je veux dire, la Ligue 1, le top, le neck du neck pour voir. Et prenons un homme qu'on connaît bien, Antoine Griezmann. Et on voit bien que, voilà, le cas Griezmann, c'est quoi? Il explose au niveau de sa carrière à l'Atlético de Madrid. Il s'y sent bien, il a une relation avec son manager c'est son coach évidemment, extraordinaire, qui est d'ailleurs un très grand coach. Bon, et puis, pour des raisons de salaire et d'évolution de carrière aussi, on lui propose d'aller au Barça. Évidemment, il tente l'aventure Barça. Griezmann, au bout de quelques matchs au Barça, il est remplaçant, il s'y sent mal, il est déprimé, il joue quasiment jamais, ou il rentre 20 minutes. Et qu'est-ce qu'il a fait Griezmann il y a quelques années là? Mais il est resté que très peu de temps au Barça, vous voyez, Frédéric Cousin. Il est revenu à l'Atlético de Madrid et il surperforme à l'Atlético de Madrid. Ça, pour vous recruter, et disons-le, vous êtes d'accord, passons ce message dans cette émission passionnante sur le recrutement, que prenez bien conscience que si vous êtes épanoui dans une entreprise, parce que vous y aimez le personnel, les collègues, votre manager, la culture d'entreprise, la philosophie, réfléchissez d'aller à l'heure pour 300 € de plus d'aller ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Cousin?
Complètement d'accord. D'ailleurs, on appelle ça dans notre métier un candidat boomerang. C'est-à-dire que c'est un candidat qui, pour des raisons financières, souvent, va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et en général, il revient quelques mois, quelques années après. Plutôt quelques mois, d'ailleurs. À condition de bien gérer son ego, parce que certains par ego ne souhaitent pas rappeler leur ancien employeur pour dire au fait finalement j'étais pas si mal que ça avec vous, est-ce que je peux revenir. Donc nous parfois on fait le go between entre les deux. On a des anciens candidats qui nous rappellent en disant voilà, je recherche, et là on dit mais pourquoi vous rappelez pas votre ancien parce que c'était mieux passé. Ils osent pas, nous on le fait et ça marche. J'ai l'exemple d'un candidat qui était chez un de mes clients, tout se passait bien, il a voulu partir ailleurs entraîné par d'autres commerciaux pour gagner 50 € de plus. Finalement, en pensant gagner beaucoup plus, en tout cas. Et finalement, c'était moins bien, il y avait moins de moyens, il a pas gagné plus, il a gagné moins. Et il osait pas revenir vers mon client pour lui dire, je veux bien revenir. Donc, je les ai mis en relation, il est revenu, et en plus, mon client a recréé un poste sur mesure pour lui. C'est parce qu'il se connaissait.
Ouais.
Et aujourd'hui,
et
ça fait 3 ans.
Il est à nouveau heureux.
Il est, ça fait 3 ans.
Il y a une autre problématique. Alors, c'est vrai qu'on engage, et ça a été un mouvement, un trend, comme on dit ces dernières années, de voir une personne qui était salariée, nous deux, nous sommes entrepreneurs, donc on sait très bien ce que ça veut dire, et qui en avait assez travaillé pour quelqu'un, on peut les comprendre, qui se dit je vais tenter l'aventure d'être entrepreneur moi-même. Et pendant un temps, moi, j'invitais certains de mes stagiaires que je voyais être très forts, notamment dans le domaine du commercial, vous voyez, Frédéric Cousin, qui faisait gagner beaucoup de boîtes d'argent à leur propre boîte, je pense, notamment dans le secteur on en parlait en off, des laboratoires pharmaceutiques ou autres, peu importe, à leur entreprise. Et se dit en passant, entre ce qu'ils avaient comme salaire, même avec des primes en plus, hein, et ce qu'ils faisaient rentrer, certains rentrent 1 million, 1,5 million à leur entreprise par an et gagnent en net Il y a les primes après, mais 1900 euros, c'est quand même assez halluciné quand vous voyez ça, quand même. Le décalage est quand même énorme, non? Mmh. Faire gagner 1100 euros, 1 milliard, 1 million 100 000 euros à son entreprise et gagner 1900 euros de salaire de base, c'est quelqu'un, hein, dans, voilà, les conseillers, les gens qui vont visiter les médecins ou les pharmaciens, c'est ça, hein. Bon. Et puis, je les invitais à devenir entrepreneurs. Et vous savez, la conclusion que j'en ai tirée en voyant certains qui, au bout de 6 mois, 1 an, alors que moi, je leur avais dit, Frédéric, purée, t'es capable de rentrer ça pour ta boîte? Si tu peux, avec un produit et connaissant ton secteur d'activité, si tu fais pour ta propre boîte, ça va être ça, extraordinaire. Eh bien, non. Il y a une différence notoire. J'aimerais que vous nous fassiez un retour là-dessus entre un mec qui est un travailleur, qui est un, ou une travailleuse, qui est une excellente commerciale, et quand il devient entrepreneur, qu'elle devient entrepreneur, il se plante, ça marche pas. Ce n'est pas la même chose d'être commercial et d'être entrepreneur. Frédéric Cousin.
C'est pas la même chose d'être recruteur et entrepreneur. C'est pas la même chose d'être technicien informatique et entrepreneur. On parle d'un métier et d'une fonction. Quand on est entrepreneur, ça veut dire qu'on gère le client, trouver des clients, on fait la gestion, on fait l'administratif et en plus on fait son métier. Alors quand on fait que son métier, ben on peut se consacrer entièrement à son métier. Et quand on ferme la porte de son bureau ou quand on éteint son ordinateur, eh ben on est en off. Week-end ou soirée. Alors quand on est entrepreneur, eh bien une fois qu'on a fait son métier, ben il faut faire le métier de chef d'entreprise, l'administratif, trouver des clients, le stress de pas avoir de clients, le stress de pas avoir d'argent, parce que quand on est salarié, on sait que le salaire va tomber à la fin du mois. Quand on est
et d'ailleurs, le monsieur qui était comme ça, je pense à quelqu'un, vous avez tout à fait raison, finissait par pas dormir de la nuit, est devenu insomniaque. Et alors l'ironie du sort, c'est que ben il a rappelé son ancienne boîte et il est à nouveau à son poste.
Mais j'en croise de plus en plus des gens, surtout en ce moment, avec une conjoncture économique un petit peu évolutive, qui ont tenté l'auto-entrepreneuriat dans l'immobilier, dans la comptabilité et autres métiers qu'on a cités, et qui reviennent aujourd'hui à des fonctions salariées. Et quand on leur propose un poste d'indépendant, ils n'en veulent plus, parce qu'ils ont vu ce que c'était d'être indépendant. Mais on pense pouvoir gagner plus et travailler moins, et finalement c'est le contraire.
Et comme dit mon meilleur ami, tous les êtres humains ne sont pas faits pour être entrepreneurs. L'état d'esprit d'un entrepreneur, alors surtout d'un entrepreneur de haute voltige, hein, on a des amis qui font 100 millions de chiffre d'affaires, ou 200 millions, ou 500 millions dans certains secteurs d'activité, c'est un état d'esprit bien particulier. Il y a un côté joueur de casino, il y a un côté cow-boy, il y a un côté je mise. Je fais tapis. Il y a un côté, alors pas Bernard Tapie paix à son âme, mais quoique, il y a un côté kamikaze chez l'entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur, j'en suis un. Et donc, voilà ce nom-là, chers amis auditeurs, en sociologie du travail, on dit qu'il y a deux profils d'êtres humains. Il y a les chasseuses et les chasseurs, et il y a les éleveuses et les éleveurs. On va pas dire, alors, la stat nous dit hein, que grosso modo, il y a 80% d'éleveurs et 20% de chasseurs. Frédéric et moi sommes des chasseurs. Mais parmi vous qui nous écoutez, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et dans votre voiture et en podcast, l'émission cartonne, on vous en remercie. Mais sincèrement, on va pas dire, Frédéric et moi, que si vous êtes du côté des éleveurs et des éleveuses, vous êtes incapable de devenir entrepreneur. Parce que ce serait n'importe quoi de dire ça, vous êtes d'accord, Frédéric? Mais, volins, nolins, ce sera quand même plus complexe. Parce que il va falloir aller chercher le chasseur qui est en vous. Parce que volins, nolins, quand tu montes une entreprise, il te faut des clients. Et un client, ça va se chercher et chercher, chasser. Frédéric Cousin, c'est pas loin, n'est-ce pas?
Complètement, c'est vraiment deux choses différentes. Hein. Être pro et très bon dans son métier, ça veut dire qu'on sera très bon en tant qu'indépendant ou chef d'entreprise. Ça, c'est vraiment un point important de bien... Mais à la limite, parfois, je me pose la question quand j'écoute... J'ai une recruteuse là récemment qui m'a appelé en me disant « Vous avez monté votre cabinet, j'aimerais monter le mien. Donnez-moi des conseils. » Donc, je lui ai donné des conseils, je lui ai posé la question. « Mais pourquoi vous voulez être indépendante ?» Vous connaissez votre métier, vous êtes dans un environnement. Elle m'a dit, parce que je veux travailler pour moi. Et après, elle me posait des questions sur comment trouver les clients, quel fric. Enfin bref, elle n'avait pas du tout préparé son métier. Finalement, elle connaissait pas tant que ça. Donc, j'ai peur que si elle se lance, j'ai peur qu'elle se plante. Parce que
il y a quelque chose qu'on appelle quelque chose dans la formation, Frédéric, qu'on appelle les prérequis. Tout ce que j'étais en train de développer là, c'est quand même des prérequis. Ils sont très inconscients. Parce que les prérequis, regardez-moi, paix à son âme, j'avais un papa, il était self-made man. Il avait les machines à 13 ans d'une imprimerie. Et les 30 dernières années de cette imprimerie, il était devenu le patron. Mais il avait zéro diplôme. Il avait même pas le certificat d'études, mon père. Et vous connaissez aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui sont des autodidactes, n'est-ce pas, Frédéric Cousin, qui vont devenir des capitaines d'industrie. On parle de certains hommes là dont on dirait les noms, n'est-ce pas, qui sont des capitaines d'industrie monumentaux, les Niels et tout ça. Ils n'ont pas leur bac. Et d'autres qui ont fait une grande école, même Polytechnique, même HEC, et qui sont devenus des losers totaux. C'est terrible, hein. Le cursus Honorum ne fait pas la carrière.
Non, c'est
soi-même.
Et
surtout la carrière d'entrepreneur. Mmh. Vous êtes d'accord, Frédéric?
Oui.
Surtout la carrière. Pourquoi, d'après vous?
Parce que c'est une question d'état d'esprit. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un état d'esprit. Chef d'entreprise, c'est pas un métier, c'est un état d'esprit. Donc, soit on l'a, soit on l'a pas. Mais il faut pas se mentir parce que c'est là où on peut se tromper.
Ouais. Et d'autant plus que en France, à la différence des États-Unis et du Québec, on n'a pas la culture de la deuxième chance. Je veux dire, généralement, tente une fois, t'as raté. Je veux dire, tu vas vite te chercher un poste de sécurité parce que les autres vont tout de suite te mettre une étiquette de loser et toi-même, t'as peur de retenter. Alors qu'aux États-Unis, Brian Tracy le dit, il dit non, l'échec n'existe pas. Essayez, essayez, essayez et essayez que ça marche pas très bien parce que c'est au bout de la xème fois que t'essayes que la 12e ou la 15e fois, c'est le coup qui va marcher. Pour ça, faut pas un état d'esprit français qui pointe le doigt sur ce qui a pas marché et jamais sur ce qui a marché.
Ouais, Richard Branson a raté plusieurs fois avant de réussir.
Exactement, tous.
Steve Jobs aussi. Donc, l'échec fait partie de la culture de l'entrepreneur. Et moi, j'ai échoué, j'ai monté d'autres entreprises avant et j'ai échoué, et j'ai du succès, j'ai des échecs. Et justement, on apprend plus dans l'échec que dans le succès. Donc, la différence entre un entrepreneur, pour réussir, il faut qu'il s'accroche à son quotidien. Il faut qu'il sache que entreprendre, c'est pas simple. Et une fois qu'il le sait, ben, il n'y a plus qu'à faire derrière.
Ouais. Et est-ce que vous dites le mindset, l'état d'esprit est vrai? C'est la phrase qu'avait dit le grand Winston Churchill quand il était monté tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, où il était une immense star, hein. C'était l'homme de la Deuxième Guerre avec De Gaulle. Et il arrive devant les étudiants d'Oxford et Cambridge, chers amis auditeurs, et ils attendent à ce que le grand Churchill fasse un immense discours. Et cette phrase est mondialement connue. Il monte en chaire pour faire sa conférence aux étudiants et il leur dit trois mots. Et il leur dit « Never, never give up. Jamais n'abandonner. » Jamais, n'est-ce pas, Frédéric? C'est-à-dire que c'est ça un entrepreneur. Il n'abandonne jamais.
Tout à fait. Et un candidat aussi, c'est ça. Tout à l'heure, vous parliez d'absence de diplôme. Alors, dans les grands groupes, c'est un peu compliqué, mais dans les PME, les TPE, le diplôme passe après l'état d'esprit, après l'expérience, après l'envie de faire et d'apprendre. Aujourd'hui, je connais plein de chefs d'entreprise qui sont prêts à donner leur chance à des candidats qui n'ont pas de diplôme et qui ne connaissent pas le métier, mais qui ont envie de l'apprendre et qui ont envie, tout à l'heure, je le disais, d'être dans l'effort. Et ça, c'est très important.
Et c'est très important parce que, comme disait Brel, l'arrivée à la réussite, c'est 99% de travail, de sueur et 1% de talent. Je veux dire, quelqu'un qui est bourré de talent, mais qui ne travaille pas et travaille pas encore, comme on a entendu tout à l'heure la chanson de Lavilliers, il faudra travailler encore, il fera rien. On dit toujours cette métaphore, et ça, franchement, j'y crois, on va conclure là-dessus, et après on vous posera la dernière question, Frédéric Cousin. Si tu n'aimes pas ce que tu sèmes, change de graine. Ça, c'est la première des choses. Ayez la souplesse de vous dire, bon, bah là, je suis dans une impasse. Qu'est-ce que je vais faire autrement? Et maintenant, Frédéric, si on vous revoit dans 10 ans, là, en 2034, qu'est-ce que vous aimeriez avoir réalisé, que vous n'avez pas encore réalisé?
Continuer à organiser ces rencontres à succès entre des candidats qui cherchent un travail ou qui cherchent un projet, qui veulent quitter leur travail pour un projet d'entreprise et rejoindre des entrepreneurs qui ont un projet à proposer avec... un environnement, une ambiance, de la bienveillance, des valeurs, et puis que tout le monde partage le succès de la réussite d'une entreprise.
Comme un sport collectif finalement, tout le monde est à sa place, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants.
C'est ça.
Et l'idée, elle est là. En tout cas, toute notre gratitude d'être venu à Dynamique Radio pour nous éclairer. Merci Frédéric.
Merci
Cousin.
Christophe.
C'était passionnant, comme toujours. Merci à Julien pour la réalisation sans qui cette émission n'existerait pas.
Merci Julien.
Tout le monde compte. Merci Julien. Je rappelle le livre de Frédéric Cousin, chers amis auditeurs, Réussir son recrutement, REFEA, méthode d'identification, hein, c'est Afranel, édition, n'est-ce
pas? Arnaud Franel.
Et vraiment, bien écoutez, là, on en sait plus. Écoutez et réécoutez le podcast. À une prochaine fois, Frédéric.
Au plaisir.
Et n'oubliez jamais, comme disait Voltaire, plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres. À la semaine prochaine. On vous embrasse.
Vivons Coachés, une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.